Ma mère et mes chers frères et sœurs, je suis très très heureux d'être avec vous, de parler de Thérèse. Donc j'ai vécu à Angers, j'ai passé 5 ans à Angers, de 1968 à 1973. J'étais au couvent des Carmes de la Plesse à Avrillé, donc j'ai étudié à la Cato d'Angers. Et donc ça faisait plus de 50 ans que je n'étais pas revenu dans ce Carmel. Donc pour moi c'est quelque chose de beau et d'émouvant aussi de voir la fidélité de Dieu. Et donc la petite Thérèse m'a toujours accompagnée dans des années qui n'étaient pas faciles, vous savez, ces années de la crise de 68. Donc c'était, mais l'Église va toujours de l'avant. Vous savez qu'aujourd'hui c'est aussi la fête de Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Donc il y a ces trois premières femmes docteurs de l'Église qui sont donc Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila, qui avait été nommée docteur de l'Église par le pape Paul VI en 1970 et plus tard Thérèse de Lisieux en 1997. Et j'ai eu la grâce de travailler pour que Thérèse soit docteur de l'Église avec un groupe de théologiens carmes, dont Monseigneur Gaucher, qui était évêque de Lisieux, qui était mon camarade de noviciat aussi, donc, et qui maintenant qui nous accompagne du haut du ciel, un des meilleurs connaisseurs de Thérèse de Lisieux. Alors je vous propose aussi d'invoquer la Vierge Marie, qui est la reine de tous les saints, donc pour qu'elle ouvre nos cœurs pour entendre cette parole si lumineuse de Thérèse, qui n'avait qu'une intention, aimer Jésus et le faire aimer. Elle résumait ainsi sa mission sur la terre comme au ciel, aimer Jésus et le faire aimer. Eh bien, demandons cela par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Donc Sainte Catherine de Sienne, qui est patronne de l'Europe, patronne d'Italie, vous savez que Thérèse est patronne de la France aussi, avec Sainte Jeanne d'Arc, donc vous voyez, en ce jour, donc vivant en Italie, j'ai appris à connaître Catherine, qui est une figure merveilleuse aussi. Donc, alors, je vous ai donné à tous, vous avez un petit feuillet de 4 pages, donc qui donne le plan détaillé de l'histoire d'une âme. Le pape François, tous les papes ont aimé la petite Thérèse à partir de Saint Pie X, qui disait qu'elle serait la plus grande sainte des temps modernes. Le pape Pie XI, qui l'a canonisée, qui l'a déclarée patronne des missions en 1927, on va fêter le centenaire de cette déclaration de Thérèse comme patronne des missions. Le pape Pie XII l'a déclarée patronne de la France en 1944, et puis finalement Jean-Paul II, docteur de l'Église en 1997. Donc vous voyez vraiment une lumière pour toute l'Église. Et le pape François, qui aimait particulièrement la petite Thérèse, a écrit une très belle exhortation apostolique, je pense que vous la connaissez, « C'est la confiance », un texte qui n'est pas très long mais très lumineux. Très lumineux, et il dit que Thérèse est docteur de la synthèse. Et il la compare, il nomme saint Thomas d'Aquin, un autre grand docteur de l'Église, parlant d'une théologie qui est plus analytique. La somme de saint Thomas, c'est comme une immense cathédrale, vous voyez, c'est magnifique, mais c'est très long, c'est quand même un peu difficile à lire, il faut des clés de lecture. Donc Thérèse de Lisieux, c'est beaucoup plus facile à lire, et donc son chef-d'œuvre, l'histoire d'une âme, qui réunit ses principaux écrits, vous voyez, eh bien en réalité, c'est une synthèse de toutes les vérités de la foi catholique, de toutes les réalités de la vie chrétienne, vous voyez, d'une manière qui touche le cœur, mais qui illumine l'intelligence aussi. Donc quand nous avons travaillé, tout un groupe de théologiens, avec la demande du pape Jean-Paul II pour qu'elle soit docteur de l'Église, c'était montré que dans ses écrits si simples, accessibles aux plus pauvres, aux plus petits, il y a véritablement une doctrine, on peut dire, qui est tout l'essentiel de notre foi catholique. Alors je pense, vous voyez, reprendre, c'est ce que je voudrais, je vous ai donné ce petit feuillet, vous voyez, mais ce serait pour vous inviter surtout à de nouveau vous procurer ce livre, si vous ne l'avez pas déjà, et puis le relire très attentivement, en essayant justement de retrouver toutes les plus grandes vérités. Jésus est toujours absolument au centre, elle respire le nom de Jésus, comme disait le pape François, dans l'acte d'amour, cet acte d'amour, Jésus, je t'aime. Et donc, en Jésus, tous les mystères, donc la Trinité, la création, l'incarnation, la Vierge Marie, l'Église, tout apparaît, et donc d'une façon parfaitement unifiée. Donc pour vous personnellement, mais aussi pour vos familles, pour les enfants, les petits-enfants, pour vous qui faites de la catéchèse aussi, vous voyez, donc c'est un merveilleux manuel. Plus qu'un catéchisme encore, vous voyez, donc le sans. Et ensuite, alors, je vais utiliser cette petite feuille, et je m'arrêterai sur certains de ces textes les plus beaux que je lirai en vous invitant aussi à les relire. Alors, je vous recommande tous de vous procurer cette édition-là, hein, édition Pocket, ça coûte 8 euros, vous voyez que c'est facile. Et donc, c'est édition de poche, donc, vous voyez, édition jaune, édition Pocket, le sous-titre « L'expérience vécue de la tendresse de Dieu », car c'est la meilleure édition de l'histoire d'une âme. Il y a d'autres éditions qui malheureusement ne sont pas complètes, en particulier qui ne donnent pas les deux prières finales qui sont essentielles. Donc ce livre, tâchez de le procurer, le commander, peut-être aussi par nos sœurs carmélites, donc qu'il soit largement diffusé. Et donc quand vous aurez ce livre, gardez précieusement ce feuillet, vous voyez, vous le mettez, vous le plierez, vous le mettrez à l'intérieur pour pouvoir ensuite relire. Et vous verrez, alors, Thérèse, c'est un récit. Donc, vous voyez, on a trois manuscrits autobiographiques qui sont des récits de sa vie, de son expérience, avec ses deux prières à la fin. Donc, elle donne une très haute doctrine, non pas dans un traité, mais dans un récit. Hier, c'était la fête de Saint-Louis-Marie de Montfort. C'était une mémoire facultative, mais bien sûr, nous l'avons fêté ici. Je pense que dans l'Ouest aussi, il est bien connu et vénéré. Saint-Louis-Marie de Montfort, qui est candidat à être docteur de l'Église. J'espère qu'il le sera bientôt. Vous savez, c'est le saint qui a le plus éclairé Saint-Jean-Paul II, le Totus Tuus. Alors, le chef-d'œuvre de Saint-Louis-Marie, c'est son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Alors, vous voyez, c'est un traité. Donc, comme le faisait aussi saint Thomas. Donc, et généralement, les saints hommes aiment plutôt les traités. C'est un peu plus abstrait. Ils évitent de parler d'eux-mêmes, à toute leur expérience. Ils exposent une doctrine de façon très claire, très organisée. Les femmes, les saintes, souvent, elles aiment mieux le récit. Thérèse d'Avila, que vous connaissez aussi, vous voyez, l'autobiographie, le récit des fondations. Mais ça n'a pas moins une doctrine, vous voyez, d'une certaine manière, c'est plus moderne aussi, ça touche davantage dans le récit d'une expérience de toutes ces vérités. Je peux vous dire que pour moi, depuis près de 60 ans, ça va faire bientôt 60 ans que je suis entré au Carmel, eh bien ces deux livres, l'histoire d'une âme et le traité de la vraie dévotion, ont été un peu comme deux phares, hein, dans des moments difficiles de la vie de l'Église aussi, vous voyez, vraiment, là, une doctrine à la fois essentielle, simple, justement, parce que ça ramenait toujours à Jésus, toujours vécu avec la Vierge Marie. Alors, vous avez donc sur... donc on va suivre, je m'arrêterai, et je citerai quelques-uns de ces plus beaux textes. Donc, on a d'abord le premier manuscrit, manuscrit A, commencé en janvier 1895, terminé le 20 janvier 1896. Je lis le texte que vous avez sous les yeux. Le manuscrit A, écrit à la demande de Mère Agnès de Jésus, prieur du Carmel et sœur de Thérèse, Pauline, commence avec un prologue symbolique, la parabole de la petite fleur blanche, et finit, après le récit de l'offrande à l'amour miséricordieux, avec un épilogue symbolique, le dessin et l'explication des armoiries de Jésus et de Thérèse. Au centre du manuscrit se trouve le récit de la grâce de Noël et du salut de Pranzini. En relation avec ce centre, on peut distinguer clairement deux parties du manuscrit. La première partie est le récit de l'enfance, qui se termine précisément à Noël 1886, quand Thérèse reçoit la grâce de sortir de l'enfance, en communion à l'enfance de Jésus, le Dieu-homme. Aussitôt commence la deuxième partie, définie par Thérèse comme une course de géants, immédiatement caractérisée par la plus intime communion avec Jésus, crucifié et rédempteur. De lui, elle reçoit comme premier enfant, ce sont ses mots, comme premier enfant le criminel Pranzini. La jeune fille de 14 ans est devenue une femme déjà épouse et mère, épouse de Jésus et mère des âmes, selon son expression. Donc ces trois textes, prologue, centre et épilogue, sont essentiels pour l'interprétation du manuscrit A. Il vaut mieux ne pas diviser le manuscrit en chapitres, mais indiquer les deux parties du récit, ainsi que le prologue, le centre et l'épilogue, Pour les trois manuscrits, on indique toujours les références de cette manière, le numéro des folios du manuscrit, avec l'indication recto verso. Donc, c'est indiqué dans cette édition-là, vous voyez, entre crochets, vous savez. Donc, vous pouvez retrouver très facilement tous ces passages auxquels je vais me référer, que nous allons lire. Alors, vous voyez, l'unique chose, savoir que la division en chapitres que vous trouvez ici, il ne faut pas en tenir compte. Elle ne vient pas de Thérèse, et je dirais, elle casse, d'une certaine manière, la dynamique du texte. Donc, vous voyez, le texte est très bon, c'est le texte absolument authentique de Thérèse, mais tenez pas compte de cette division en chapitres. Alors, ce prologue, donc la parabole de la petite fleur blanche, Thérèse et tous les hommes aimés personnellement par Jésus, créateur et sauveur. Thérèse, elle est pénétrée de l'Écriture sainte et spécialement de l'Évangile. On peut dire qu'il y a un tissu biblique de tous ses écrits. L'Évangile, vous voyez, Jésus parlait en parabole. Bien, Thérèse va inventer des paraboles à partir des paraboles de l'Évangile et ce langage des fleurs. Alors souvent, on dit « Oh, c'est à l'eau de rose », etc. Je dis « Excusez-moi, la fleur, c'est un des grands symboles bibliques de l'Ancien Testament pour signifier à la fois la beauté et la fragilité de l'être humain. » Et dans l'Évangile, Jésus nous dit « Regardez les lys des champs. » Pas seulement pour admirer, il dit « Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. » Donc l'insistance sur la beauté de l'être humain et la fragilité, l'herbe qui est aujourd'hui et qui sera jetée au four. Donc, vous voyez, ce symbole de la fleur, qui est un symbole tellement positif aussi, pour signer tout être humain. Alors, ce qui est admirable dans ce prologue, je n'ai pas le temps de le lire, mais je vous invite à le lire, c'est que Thérèse, elle part d'abord d'elle-même. Elle écrit par obéissance, elle dit « Histoire d'une petite fleur blanche ». Et en une page, elle passe de son âme à toutes les âmes, à toute l'humanité. Elle ouvre d'abord le livre de l'Écriture, des citations de l'Évangile de saint Paul, qui pose des questions. Pourquoi il y a une telle différence entre les saints, entre tous les hommes? L'époque des missions, encore certains n'ont pas encore reçu l'Évangile. Et alors, elle dit, Jésus me répond, « Il mit devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai vu que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles. » Et les deux livres, le livre de l'Écriture, le livre de la nature. Jésus, il est le Fils, par lui tout a été fait, il est le Créateur, il est le Sauveur. Jésus répond, et donc, Thérèse, eh bien, elle passe de son âme à toutes les âmes, elle dit, le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Et elle inclut celui qui n'a pas encore reçu l'Évangile. Le langage de l'époque, elle emploie le langage le pauvre sauvage, mais elle a un regard positif sur tous. Alors que certains pensaient, vous voyez, ceux-là sont perdus, ils vont en enfer. Non, non, pour lui tous, et celui qui n'a pas encore reçu l'Évangile, elle le compare au petit enfant, vous voyez, elle dit, ce sont des fleurs dont la simplicité le ravit. Et elle termine ce prologue en montrant que chaque être humain est aimé comme s'il était unique au monde. De même, encore on parle en parabole, de même que le soleil éclaire les plus grands arbres et la plus petite fleur, de même, vous voyez, chaque âme est aimée comme si elle était unique au monde. Alors vous pensez, le lecteur déjà, ben alors ce sera vrai pour moi aussi, vous voyez. Donc tout de suite, le climat qui est donné. Et je peux dire, on a déjà une merveilleuse théologie de la création et du salut, toujours dans la lumière de Jésus, qui est le soleil. Alors, l'enfance, bien sûr, j'ai indiqué les principaux récits. Vous voyez, donc l'enfance de Thérèse, les premiers souvenirs à Alençon, donc elle est née à Alençon, et la mort de la maman, vraiment une blessure très profonde. Quand elle a 4 ans et demi, elle est très éveillée, ça va vraiment la blesser très profondément. Et donc ensuite, après la mort de la maman, le papa, donc ses parents qui sont tous les deux des saints, Zélie et Louis, donc le père va déménager à Lisieux pour être proche de son beau-frère et pour que les filles puissent retrouver un climat familial. Donc Thérèse ensuite va passer toute sa vie à Lisieux. Alors Thérèse est très profonde, j'ai bien dit, entrée de Pauline au Carmel et maladie de Thérèse. Thérèse est très profondément blessée quand sa sœur Pauline entre au Carmel un peu brutalement, sans l'avoir préparée. Elle avait choisi sa sœur Pauline comme sa seconde maman après la mort de sa maman. Et c'est comme vivre une deuxième fois la mort de sa maman. Donc ça, la blessure se rouvre, et donc Thérèse tombe malade, mais c'est une maladie psychologique extrêmement grave. Ça a été étudié par des médecins, par des psychologues, vous voyez. Vraiment, elle va très très mal, elle aurait pu devenir folle, vous voyez, vraiment. Et alors, elle est guérie par le sourire de la Sainte Vierge. Alors je vous invite à le lire, là vous lirez ce très beau texte. Donc dans un moment de très grande souffrance, elle se tourne vers la statue de la Vierge, qui est ici, là, une petite reproduction de la Vierge du sourire, hein, de cette statue qui se trouvait dans la famille, dans la maison. Thérèse, avec confiance, prie, et en priant, elle expérimente comme le sourire de la Vierge Marie. La tendresse, voyez, maternelle, elle était blessée par la mort de... Donc Dieu, Jésus, fait intervenir sa mère, voyez, pour guérir cette blessure. Alors je dis ça, c'est très important parce que ce n'est pas une vision. Je pense que tous dans notre vie, moi ça fait déjà une longue vie, vous voyez, eh bien, tous nous avons expérimenté un jour ou l'autre le sourire de la Vierge Marie. Et souvent dans des moments de grande épreuve, ça peut être dans un sanctuaire, ça peut être simplement chez nous, ça peut être devant une image, ou même simplement en fermant les yeux ou en récitant le chapelet, vous voyez, l'expérience du sourire de Marie. Alors c'est très important parce que c'est le début du fil marial de la vie de Thérèse. C'est une expression qu'employait Saint Jean-Paul II. J'ai eu la grâce de connaître Saint Jean-Paul II à Rome, de travailler pour lui, et surtout de travailler pour sa béatification. Vous voyez, Saint Jean-Paul II qui avait un lien merveilleux avec Marie, grâce en particulier à la doctrine de Saint Louis-Marie de Montfort. Et donc, Saint Jean-Paul II parlait du fil marial de sa vie, depuis son enfance. Et on peut dire que vous voyez, cette première expérience profonde, simple, hein, de Thérèse, elle a 10 ans à ce moment-là. C'est le début de ce fil marial, donc elle va vivre à partir de là une très profonde relation avec la Vierge Marie. Il y a d'autres textes, d'autres moments, et l'aboutissement, ça va être quelques mois avant sa mort, sa grande poésie, « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Alors, je vous parle bien sûr de l'histoire d'une âme qui réunit les textes les plus importants, qui sont la clé de lecture de tous les autres textes. Donc, il y a le gros volume des œuvres complètes de Thérèse, vous voyez, mais c'est plus compliqué, il y a beaucoup de textes. Mais c'est très important d'avoir ce petit volume donc, qui nous donne un peu la clé de lecture de tous les autres textes. Et alors, ensuite, donc, un beau texte, Thérèse et Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était la sainte qu'elle aimait le plus, après Saint Joseph et la Vierge Marie. Et on a le très beau récit de la première communion de Thérèse. C'est le début du fil eucharistique, comme tous les saints, toutes les saintes. Thérèse a un très grand amour de Jésus dans l'Eucharistie, et la manière dont elle raconte sa première communion, c'est impressionnant. Une expérience amoureuse. Elle dit « le premier baiser de Jésus à mon âme ». Déjà, vous voyez, cette union, elle en parlera comme de l'union de l'époux et de l'épouse. Une union très intime, elle ose parler d'une fusion et un don réciproque. Immédiatement, elle dit à Jésus « je vous aime et je me donne à vous ». Pour toujours. Et Jésus se donne à elle, elle se donne toute à lui. Et en même temps, dans sa première communion, elle expérimente, en même temps qu'elle reçoit Jésus, sa maman qui était morte avant, qui était au ciel, vous voyez que en Jésus, toute l'Église du ciel est présente. Donc un texte, vous voyez, dès le départ, on peut dire, le début du fil eucharistique, alors ça, ensuite, ça va, ce fil, on va le retrouver. Il y a des références continuelles à l'Eucharistie dans les écrits de Thérèse. Des grâces qui arrivent pendant la messe, ou pendant l'action de grâce, ou après la communion, on va voir quelques autres exemples. On se compare à Marie-Madeleine, et alors on arrive à ce centre, et là je vais m'y arrêter un peu plus. Donc le récit de la grâce de Noël et du salut du criminel Pranzini. Juillet, donc août 87. Pranzini qui devient le premier enfant de Thérèse. En communion avec Jésus, enfant et crucifié, Thérèse sort de l'enfance et commence sa course de géant en devenant déjà 14 ans épouse du Rédempteur et mère de l'homme racheté par son sang. Alors, Thérèse, elle n'a pas vécu l'adolescence. À mon avis, c'est une erreur dans le volume des œuvres complètes quand on parle des lettres adolescence. Vous savez, donc j'ai travaillé à Rome, oui, en plus de l'enseignement, j'étais consulteur, je suis encore consulteur pour les causes des saints, nommé par Jean-Paul II il y a plus de 20 ans. Et encore le pape François m'a renouvelé peu de temps avant sa mort, jusqu'en 2030. Donc j'ai examiné plus de 100 causes de béatification et de canonisation, notamment des couples aussi qui sont vénérables, des jeunes, des enfants. Et donc, j'avais dû faire une étude, il y a quelques années, à la demande du Saint-Siège, sur la sainteté des jeunes et des enfants. J'avais mis l'adolescence. Alors, vous savez, par exemple, au Moyen-Âge, l'adolescence n'existe pas. Parce que la vie est beaucoup plus courte. On passe immédiatement de l'enfance à l'âge adulte. Le cas le plus évident, c'est Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, que Thérèse aimait tant. On a une documentation formidable sur Jeanne d'Arc. Donc, elle fait vœu de virginité à l'âge de 13 ans. Ses visions commencent quand elle a l'âge de 13 ans. C'était l'âge normal du mariage pour une femme. Pensez au Moyen-Âge, si cette femme est une princesse ou une comtesse, à 15 ans, elle est déjà mère de famille. Elle va gouverner une province ou un royaume. Vous voyez, on n'a pas idée de cela aujourd'hui. Eh bien, Thérèse, vous voyez, immédiatement, donc elle sort de l'enfance et immédiatement, elle commence cette course de géant. Et donc, à 14 ans, ce n'est plus une adolescente, une maturité déjà. Elle a déjà son premier enfant et comment elle va se comporter aussi dans le voyage à Rome, vous voyez, une jeune femme. Comme Jeanne d'Arc, pensez à 17 ans. Quand elle accomplit sa mission, elle a 17 ans, ce n'est pas du tout une adolescente, c'est une femme jeune, forte, qui est capable de commander, de se faire obéir, de se faire respecter. Vous voyez, ça c'est important. Alors nous allons regarder, là je vais lire, je vous invite bien sûr après ça, le relire personnellement, mais car ce récit de la grâce de Noël et du salut de Pranzini, eh bien, c'est un des plus beaux exposés de la vérité, des mystères de l'incarnation et de la rédemption. Mystère de l'incarnation et de la rédemption. Alors, je cite d'abord le récit concernant la grâce de Noël. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute, au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine, et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. En cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte, Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement, ce qui justifia cette parole qui m'avait été dite « Tu pleures tant dans ton enfance que plus tard, tu n'auras plus de larmes à verser ». Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot, la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. Et ben, ce texte que je viens de lire est magnifique. Alors quand on le lit avec les lunettes du théologien, donc j'ai enseigné à Rome pendant tant d'années les grands traités sur le mystère de Dieu Trinité, le mystère de Jésus, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption. Vous voyez, quelle expérience de Thérèse qu'elle a décrit ici. Donc elle avait été très profondément blessée par la mort de sa maman. Le sourire de Marie l'avait guérie, mais pas complètement. Et elle restait quand même encore hypersensible. Une jeune fille qui allait avoir 14 ans, qui pleure tout le temps, qui pleure d'avoir pleuré. Vous voyez, ce n'est pas l'enfant spirituel, c'est un certain enfant infantilisme. Et alors, vous voyez, alors, si vous lisez ce texte attentivement, le tissu évangélique, c'est le récit de l'évangile de Noël, de la messe de minuit. Marie qui enfante Jésus, qui l'enveloppe de l'ange et qui le couche dans la crèche. Vous voyez, Thérèse, elle était prisonnière des langes de l'enfance, au sens négatif. Et Jésus l'a fait sortir des langes de l'enfance quand lui-même est enveloppé de l'ange. Vous voyez, le moment de Noël, donc cette nuit lumineuse, elle dit admirablement, « En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. » Oh, admirable échange! Le grand pape Saint Léon le Grand, qui est docteur de l'Église, vous voyez, qui est ces sermons magnifiques sur Noël qu'il prêchait à Rome, vous voyez, il chantait cet admirable échange entre Dieu et l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le Tout-Puissant s'est fait tout petit, s'est fait enfant, vous voyez. Mais alors, Thérèse, elle expérimente pour moi. Et chacun de nous peut le dire. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Et oui, ça s'accomplit après la communion. Hein, je venais de recevoir le Dieu fort et puissant, le petit enfant Jésus. Jésus présent dans l'hostie, c'est le Dieu fort et puissant. Et alors, ce petit miracle, je ne lis pas la suite du texte, il se réalise avec une chose de rien du tout. Vous voyez, un effort sur elle-même, hein, elle a fait des souliers dans la cheminée, le père était fatigué, elle a dit une parole un peu désagréable, elle aurait dû fondre en larmes. Elle arrive à surmonter son hypersensibilité et sa vie change. Vous voyez, ce petit miracle s'est accompli. C'est ça aussi, Thérèse nous montre comment Dieu peut opérer. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a jamais de vision, il n'y a aucun phénomène extraordinaire dans sa vie. Des grandes grâces qui sont données à travers des toutes petites choses. Hein. Il y a des rendez-vous qu'on manque, vous voyez, Thérèse n'a pas manqué ce rendez-vous. Alors elle dit un peu plus loin, et elle va passer immédiatement de ce récit, vous voyez, qui était centré sur Noël, sur l'incarnation, elle va passer immédiatement de la crèche à la croix. Alors qu'en fait, le deuxième événement qu'elle raconte, il a lieu quelques mois plus tard, juillet-août 87, vous voyez, mais elle passe immédiatement de ce récit de la grâce de Noël à cette deuxième grâce. Je lis le texte. En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur, « J'ai soif ». Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Ce texte est impressionnant. Thérèse, elle passe, elle ne va même pas la ligne, elle ne fait même pas un nouveau paragraphe. Cette nuit de lumière, c'était la nuit de Noël. Voyez. Une grâce personnelle, de transformation. Mais une grâce personnelle n'est jamais individualiste. C'est toujours pour les autres. C'est toujours pour les âmes. Voyez. Donc, elle montre immédiatement le fruit que ça va porter. Donc, un amour du prochain. Et alors, vous voyez, un dimanche, elle dit une photographie, une image de Jésus en croix, qu'on a conservée, une image qui n'a rien d'extraordinaire, qui représente Jésus en croix avec Marie-Madeleine au pied de la croix qui embrasse les pieds de Jésus, suivant l'iconographie traditionnelle. Et ça se passe pendant la messe du dimanche. Si vous allez à Lisieux, on sait exactement où c'était. Voyez, donc c'est toujours en lien avec l'Eucharistie. Alors, voyez, cette intuition de Thérèse, c'est pas une vision. Mais ça vaut autant qu'une vision. C'est un regard de foi sur cette image. Donc, vous voyez, elle imagine, elle voit Marie-Madeleine au pied de la croix, et sous l'autre main de Jésus, il n'y a personne. Donc, elle imagine le sang de Jésus qui tombe à terre, qui est perdu. Jésus a versé son sang, pas pour qu'il soit tombé à terre, mais pour qu'il rejoigne l'homme qui en a le plus besoin. Vous savez, dans la prière de Fatima, pour ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Vous voyez, donc ce désir qu'elle exprime ici, donc le « je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix », vous voyez, pour recueillir le sang de Jésus et le répandre sur les âmes, répondre à la soif de Jésus. Eh bien, quand Thérèse a décidé, résolu de se tenir au pied de la croix, Jésus va lui dire la parole qu'il avait adressée à sa sainte mère, la Vierge Marie, « Femme, voici ton fils ». Et donc, il va lui donner un fils, son premier enfant. Là encore, pas de vision, rien d'extraordinaire. C'est le monstre dont parlent tous les journaux à l'époque, ce Pranzini, qui a tué deux femmes et une petite fille, évidemment condamné à mort. Il va être guillotiné. Il ne demande pardon ni à Dieu ni aux âmes. Il va aller directement en enfer. Vous voyez ? Et donc, Jésus, à travers, encore pas de vision, c'est un événement qui, pour Thérèse, prend une importance extraordinaire. Et là, il faut lire la suite du récit, qui est un véritable traité du mystère de la rédemption. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline, sa sœur, de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même, dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était pour Pranzini le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit de si tendres et si présentes questions que je lui confiais mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude, elle souligne, je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de donner du courage, de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Et elle souligne, voyez, même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, et elle donne la raison, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous la main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je ? Ah, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou de la guillotine. Quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baisse par trois fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle des grâces que Jésus m'avait faites pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur. Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leurs souillures, et les lèvres de mon premier enfant, souligné, allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Et ainsi, il me semblait le désaltérer. Et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour. Fin de ce récit. Oui. Alors là encore, quand on essaie d'entrer dans la profondeur, dans la vérité de ce récit, bien, on est émerveillé. Hein. Tout l'essentiel est dit sur le mystère de la rédemption. Sainte Catherine, que nous fêtons aujourd'hui, Sainte Catherine de Sienne, elle est la sainte du sang de Jésus. Elle en parle continuellement, le sang de Jésus, hein, qui contient tout le salut, qui peut effacer tous les plus grands péchés, vous voyez. Donc Thérèse, vous voyez, c'est pas elle qui va sauver. Personne ne peut rien ajouter au sang de Jésus. Ni l'Église, ni Marie, ni Thérèse, ni personne. La mission de l'Église, c'est pas d'ajouter quelque chose, mais recueillir ce sang et le répandre sur les âmes. Marie est la première. Thérèse a un autre texte, la fuite en Égypte, où elle va parler justement de cette médiation maternelle de Marie. Alors vous voyez, donc tout est dit, donc recueillir le sang de Jésus, le répandre sur les âmes, et à ce moment-là, Jésus lui indique l'âme apparemment la plus désespérée. Vous voyez, tout est dit. Thérèse est la meilleure théologienne de l'enfer, elle dit la vérité, vous voyez ici. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Elle sait que cet homme qui va mourir, qui a fait des péchés horribles, qui ne demande pardon ni aux dieux, ni aux... il est sur le bord de l'abîme. Elle espère contre lui, pour lui, contre toute espérance. Vous voyez ? Quand elle dira un peu plus loin, on va le voir, à moi il a donné sa miséricorde infinie. Mais on peut dire que c'est le moment décisif à l'âge de 14 ans. Vous voyez, elle expérimente, là encore pas de vision, hein, une lumière intérieure, vous voyez, fondée sur la vérité du mystère de la rédemption. Et donc, vous voyez, et elle dit la certitude. Donc, si on lit le récit superficiellement, on dit, ah, oh, il a embrassé la crucifix, donc elle a cru qu'il était sauvé. Non. Même s'il n'y avait eu aucun signe, elle avait la certitude qu'au dernier moment, il aurait ouvert même invisiblement son cœur à la miséricorde. Vous connaissez l'histoire du curé d'Ars. Donc, une femme veuve qui était désolée parce que son mari s'était suicidé, s'était jeté du haut d'un pont. Et elle pensait, suivant la mentalité de l'époque, que son mari était en enfer. Et le curé d'Ars lui a dit, non madame, votre mari est sauvé. Entre le pont et l'eau, il s'est repenti. Et donc, cette certitude de Thérèse, alors ça va l'habiter, vous voyez. Et le pape François insistait, c'est vraiment le docteur de la miséricorde. Vous voyez, donc, expérience fondamentale, expérience fondatrice aussi. Et tout est dit, vous voyez, si on veut dire la médiation de Marie, la médiation de l'Église, vous voyez, aux âmes je donnais, c'est un admirable, un véritable échange d'amour, aux âmes je donnais le sang de Jésus, à Jésus je donnais ses âmes sauvées par son sang. Vous voyez, donc un texte qui est vraiment, je dirais, qui vaut, voilà, un traité de la rédemption. Alors, avançons, je dirais l'un ou l'autre texte pour ne pas être trop long. Après ça, donc la deuxième partie, cette course de géants. Donc vous avez tous les événements qui vont se passer à partir de là. Toujours la place de l'Eucharistie, cette croissance dans l'amour de Jésus. Et vous tournez à la page 2, il va y avoir le voyage à Rome. Alors là, c'est on peut dire, Thérèse est le mystère de l'Église. Hein? Pèlerinage à Rome et à travers l'Italie, elle est émerveillée, elle est très ouverte, passionnée, la beauté de la nature, les montagnes, en traversant la Suisse, elle n'avait jamais vu ça en Normandie. Mais alors surtout, elle va être en contact pendant un mois entier avec des prêtres. Hein? Ce n'est pas les prêtres italiens, c'est ces bons prêtres normands. Elle dit que ce sont des saints prêtres, elle les estime beaucoup, mais les prêtres, elle les voyait toujours célébrant la messe ou enseignant. Là, elle les voit, vous voyez, aussi à table. La cuisine italienne est très bonne, les vins aussi sont excellents. Bon, on peut penser qu'il y avait peut-être des plaisanteries pas très élevées, vous voyez. Mais elle ne se scandalise pas. Elle les aime encore plus. Vous voyez, si on voit la maturité, elle aurait pu être scandalisée. Pas du tout. Vous voyez. Et alors, elle va comprendre sa mission de prier pour les prêtres. Alors, elle va rencontrer le Saint-Père, Léon XIII, vous voyez, mais on voit l'amour de l'Église à travers les représentants de la hiérarchie, donc les prêtres, mais aussi le pape. Bon, quand même, elle n'apprécie pas que les femmes soient excommuniées en Italie. Donc, elle entre au Carmel. Elle entre au Carmel pour sauver les âmes et prier pour les prêtres. Prier pour les prêtres. Vous voyez combien ceci est actuel aussi. Et alors, donc, elle va faire son noviciat. Et sa profession, pour elle, c'est un véritable mariage. Épouse de Jésus. Elle donne son cœur, cette dimension du cœur d'épouse qui aurait pu se réaliser dans un amour humain, dans la famille, est consacrée exclusivement à Jésus. Donc c'est pour elle un véritable mariage. Et vous verrez, à la fin de l'histoire d'une âme, il y a la très belle prière de Thérèse au jour de sa profession, de la jeune épouse à son époux. Un texte magnifique. Et voilà. Et alors, à la fin de ce manuscrit, de toute cette conclusion, récit de l'offrande à l'amour miséricordieux, donc le 9 juin 1895, sommet de cette période. Et donc, on trouve à la fin de l'histoire d'une âme l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Alors là, je vais m'arrêter un peu sur ce texte parce que c'est le texte le plus important de Thérèse pour tous les baptisés. Son offrande à l'amour miséricordieux qui correspond exactement à la consécration de Saint-Louis de Marie de Montfort à Jésus par Marie, eh bien, vous voyez, c'est ce qu'elle donne à tous les baptisés, dans tous les états de vie. Ça peut être des personnes mariées, des personnes célibataires, des fiancés, des jeunes, un prêtre, des religieuses, vous voyez, c'est... Et ça correspond exactement, donc, la consécration à Jésus par Marie de Saint-Louis Marie de Montfort. D'ailleurs, je l'ai indiqué, regardez tout à fait à la fin de ce feuillet, au bas de la page 4, au bas de la page 4, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux comme victime d'Holocauste, à lire à la lumière du récit à la fin du manuscrit A, on va voir quelques passages, cette longue prière est la plus importante de toutes les prières de Thérèse, le cœur de sa doctrine. C'est l'offrande qu'elle propose aussitôt à ses sœurs, même aux plus petites, aux novices, et après sa mort à tous les baptisés qui voudront suivre son chemin de sainteté. Le lecteur de l'histoire d'une âme est invité à faire lui-même cette offrande, tout comme le lecteur du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie de Montfort est invité finalement à faire sa consécration à Jésus par les mains de Marie. Les deux offrandes ont la même racine historique dans l'école française de spiritualité, le cardinal de Bérulle qui a fondé ce Carmel d'Angers au XVIIe siècle et tant d'autres, donc l'école française de spiritualité, et la même signification théologique. Il s'agit de vivre pleinement la grâce de son baptême par le don total de soi-même, dans l'esprit d'amour, avec Marie et en Marie. Vous voyez, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, dira Thérèse dans sa grande poésie à Marie. Alors, deux symboles bibliques très forts, choquants même, mais qu'il faut garder. L'esclavage d'amour, dit Louis-Marie de Montfort, Jésus qui a pris la condition d'esclave jusqu'à la mort et la mort de la croix. La mort de l'esclave et Thérèse, holocauste à l'amour, être la victime entièrement brûlée, consumée par le feu de l'amour. Holos en grec, ça veut dire tout, tout entier. Alors, on va regarder quand même quelques passages du récit que fait Thérèse, puisqu'elle nous donne le mode d'emploi de cette offrande. Je vous invite vraiment, vous voyez, nos sœurs, certainement, mais beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette offrande à l'amour miséricordieux, mais c'est vraiment un trésor que Thérèse nous donne, voyez, son chemin de sainteté pour tous les baptisés dans tous les états de vie. Voici ce qu'elle écrit, donc à la fin du manuscrit. Après tant de grâces, que ne puis-je chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie. Et que par amour, et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors, toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour, la justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Alors, quand nous avons travaillé pour le doctorat de Thérèse, on a rédigé la positio, c'est-à-dire un gros document de synthèse, pour montrer au pape, aux évêques, aux théologiens, que Thérèse méritait le titre de docteur de l'Église. Ce texte-là était un des textes les plus importants. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. Donc tous les saints parlaient de la miséricorde. Saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Thérèse d'Avillage, tous les saints ont parlé de la miséricorde. Mais chez Thérèse, il y a une pénétration encore plus profonde. Le pape François en a parlé dans son exhortation apostolique. Et puis, le plus beau texte du pape François, c'est son encyclique sur le Sacré-Cœur. Notre pape Léon a dit que c'était le testament du pape François. Et vous verrez que dans l'encyclique sur le Sacré-Cœur, il cite quantité de saints et de saintes, mais plus cité que tous les autres est Thérèse, justement, qui est la sainte de la miséricorde. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. Alors, elle aura des disciples, sainte Faustine, vous voyez, qui va populariser cette dévotion à la miséricorde, mais vraiment, le grand docteur de la miséricorde, c'est Thérèse. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, vous voyez ce qu'elle dit, à travers la miséricorde, elle contemple les autres perfections divines, spécialement la justice qui semblait s'y opposer. Parce qu'à l'époque de Thérèse, il y avait une fausse idée de la justice de Dieu, dans le climat janséniste de l'époque, une justice qui punit, hein, qui met une justice dure, voyez. Donc, ben évidemment, l'homme pécheur, il ne peut qu'avoir peur, et cette justice ne peut que le condamner. Et quand Thérèse dit « la justice, même plus que tout autre, me semble revêtue d'amour », bon, elle ne connaissait pas le grec, mais elle retrouve exactement le sens de la justice de Dieu tel que saint Paul en parlait dans la lettre aux Romains. Parce que pour nous, en français comme en latin ou en italien, le verbe qui correspond à la justice, c'est le verbe juger. Eh bien, dans la langue grecque de saint Paul, le verbe qui correspond à la justice, ce n'est pas juger, c'est justifier. Relisez le chapitre 3 de la lettre aux Romains, hein, saint Paul, la pleine révélation de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle fait, la justice de Dieu? Elle justifie gratuitement le pécheur dans le sang de Jésus. Mais donc, l'œuvre de la justice, c'est une œuvre de pure miséricorde. Thérèse ne croyait pas si bien dire. Voyez, donc, le sens qu'elle a de l'écriture, et souvent les saintes, Catherine de Sienne, qui était analphabète, avait des intuitions, voyez, qu'on peut fonder à partir du texte grec de l'Évangile, qui n'apparaissait même pas dans la traduction latine. Donc, voyez, alors c'est bien ça. Voilà, c'est la doctrine de Dieu, du Dieu un, hein, la doctrine de Dieu et des attributs divins, le Dieu tout-puissant, juste, bon, miséricordieux. Et ce que dit Thérèse est très vrai. On voit chez les différents saints, saint Jean de la Croix l'expliquait très bien, hein, Dieu a donné aux différents saints de voir plus l'un ou l'autre de ses attributs divins, mais toujours à travers cet attribut, il voit les autres. Voyez. Donc, à l'époque de Thérèse, il y avait cette fausse idée de la justice sans la miséricorde. Mais Thérèse ne tombe pas dans l'erreur qui serait aussi grave de la miséricorde sans la justice. Voyez, mais justement, la miséricorde, elle est juste et elle va justifier. Donc le pécheur ne va pas rester dans son péché. La miséricorde va en faire un juste. Et alors elle continue, je lis la suite du récit, là elle parlait de ce mystère de l'unité de Dieu, de ses perfections divines, et elle continue en nous parlant de la Trinité, toujours en Jésus. Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à la faire. Et son récit se transforme en prière. « Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond du cœur, n'y aura-t-il donc que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victime? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin, lui aussi? De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs dans lesquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu! Votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victime d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux? Ô mon Jésus, que ce soit moi cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre amour, de votre divin amour. Puis elle s'adresse à sa prieure, ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi, je ne puis craindre le purgatoire. Alors là, encore, vous voyez, un texte admirable de contenu théologique. Mais là, elle parle plus seulement de la miséricorde comme perfection divine. Elle parle de l'amour miséricordieux, vous voyez, comme de cette eau vive qui est contenue dans le cœur de Jésus et qui doit dériver en nous, comme de ce feu qui brûle dans le cœur de Jésus, que Jésus ne veut pas rester garder enfermé dans son cœur, qui veut faire dériver dans nos cœurs. Et vous voyez le sens de son offrande, il dit « Se jeter dans vos bras et accepter votre amour infini ». Voilà l'offrande de Thérèse que chacun d'entre nous peut faire. Vous voyez ? Mais alors, il faut se donner tout entier. La nécessité du don total de soi-même pour accueillir le don de Dieu. Le bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus insistait beaucoup sur ce point. Si on ne se donne pas tout entier, on sera comme le jeune riche de l'Évangile. Vous savez qu'il aime très bien, il pratique les commandements, il ne veut pas tout donner, il retourne tout triste à ses bonnes heures, à ses bonnes œuvres et à sa médiocrité spirituelle. Ceux qui ont suivi Jésus, vous voyez, il y avait des pécheurs, Marie-Madeleine, Matthieu le publicain, mais ils ont tout donné, ils ont suivi Jésus, ils l'ont aimé, ils sont devenus des saints. Vous voyez, alors, ce que dit Thérèse ici, quand elle dit « ô mon Dieu », c'est-à-dire « ô mon Jésus ». Elle parle presque toujours à Jésus, et en même temps, en lui, elle contemple le Père et l'Esprit-Saint. Alors ici, l'Esprit-Saint n'est pas nommé, mais on trouve les deux plus grands symboles de l'Esprit-Saint qui sont l'eau et le feu. Vous voyez, donc il faut s'offrir tout entier au feu de l'amour qui brûle dans le cœur de Jésus. Si on s'offre tout entier au feu de l'amour, on ouvre son cœur à ces flots d'infinie tendresse qui sont renfermés en lui. Et voyez, elle dit à sa prière, vous savez, vous qui avez permis d'offrir au bon Dieu, vous savez, les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Eh bien, la vie mystique, c'est ça. Et le pape François, dans son exhortation apostolique, il insiste sur l'importance de cet acte d'offrande, hein, comme un chemin de vie mystique pour tous, les baptisés, dans tous les états de vie. Mais il faut se donner tout entier. Vous voyez ? Alors un texte, là, je vous invite à le relire, le méditer. Vous voyez ? Mais c'est... Alors, on va bientôt terminer. Un regard sur les... Nous reprenons notre feuillet au bas de la page 2. Donc le manuscrit B, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, c'est le chef-d'œuvre de Thérèse, donc écrit en septembre 1996, donc qui est une longue prière à Jésus, introduite par une lettre à Sœur Marie du Sacré-Cœur, et complétée par une autre lettre qui est publiée en annexe à la fin de ce volume, une lettre que le pape François aimait tellement, c'est là qu'on trouve cette fameuse phrase, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Cette phrase que le pape François a mis en tête de son exhortation apostolique. Et il disait que cette lettre, que cette phrase contient déjà toute la doctrine, ça mériterait qu'elle soit docteur de l'Église. Il dit qu'il faudrait la relire des milliers de fois, cette lettre de Thérèse. Alors donc, ce manuscrit B, là encore, c'est le mystère de l'Église, la découverte du cœur de l'Église, ce cœur brûlant d'amour. J'ai indiqué le plan détaillé, vous pourrez facilement lire le texte. Vous voyez, donc, alors c'est très beau parce que, vous voyez, Thérèse sent dans son cœur toutes les vocations. En quelque manière, sa vocation de carmélite, c'est une vocation parmi les autres. Et alors, elle va découvrir la plus profonde vocation, qui est la vocation à la sainteté. Être l'amour dans le cœur de l'Église. Oui. Et c'est vrai pour les personnes mariées, c'est vrai. Si on ne désire plus la sainteté, on s'arrête, vous voyez. On s'arrête. Et alors, pour que ce soit dans toutes les vocations, et alors Thérèse, être l'amour dans le cœur de l'Église, et toujours là, elle commente l'Écriture. Elle commente, Saint Paul, les chapitres 12 et 13 de la première aux Corinthiens. Chapitre 12, Paul parle de 6 différentes vocations. Certains sont apôtres, certains, vous voyez, les prophètes, etc. On pourrait dire prêtres, religieux, religieuses, laïcs, etc. Oui. Mais alors, le chapitre 13, il dit, je vais vous montrer une voie encore plus haute, et c'est l'hymne à la charité. C'est l'hymne à la charité. Et c'est ce que le Concile Vatican II a mis en lumière, le chapitre 5 de Lumen Gentium, après avoir vu les différentes vocations dans l'Église, les laïcs, la hiérarchie, etc. Tous appelés à la sainteté. Là, on va terminer avec un regard sur Le dernier manuscrit et surtout la finale. Vous passez à la page 4. Page 4, donc le manuscrit C, écrit en juin 97, donc quelques mois avant sa mort, est le dernier des trois manuscrits autobiographiques. Thérèse a écrit en juin 97 à la demande de la prieure Marie de Gonzague. Vers le début, la sainte révèle la terrible épreuve contre la foi qui a commencé au moment de Pâques, 96, et qui durera jusqu'à sa mort. En réalité, c'est une des plus grandes grâces de sa vie. Sœur universelle, Thérèse se rend proche de tous ses frères athées du monde moderne. Viennent ensuite de longues et admirables pages sur l'amour fraternel. Les dernières pages sont comme une explosion de lumière, comme testament spirituel de la sainte. Le pape François a valorisé ces textes et dit que c'est le testament missionnaire de Thérèse. Testament missionnaire de Thérèse. Alors de fait, vous voyez, j'ai indiqué les principaux moments de ce manuscrit, qui est plus court. Donc, d'abord la petitesse évangélique, la découverte de la petite voie, l'ascenseur divin, un chemin de sainteté, se mettre dans les bras de Jésus comme un tout petit, hein, l'ascenseur qui l'élève jusqu'au ciel, ce sont vos bras au Jésus. Voie de confiance et d'amour pour tous. Et alors cette grâce de Pâques, 1804, il y avait eu la grâce de Noël 1886, à 14 ans, voyez, et là, la dernière période de sa vie, 10 ans plus tard, la grâce de Pâques, 96, la passion de Thérèse en son corps et en son âme, alors début de la maladie, la passion du corps, mais surtout la passion de son âme. Pensez, pour Jésus, le moment le plus douloureux, ce n'est pas la flagellation, c'est l'agonie à Gethsémani. Avant toute souffrance physique, la profondeur, la tristesse du Christ. Mon âme est triste jusqu'à la mort parce qu'il voit tous nos péchés. Quand il accepte de boire la coupe, il accepte de prendre en lui, dans son cœur, la totalité du péché du monde, de tous les temps. Voyez ? Et alors, chez Thérèse, la plus grande souffrance, ça va être bien sûr cette de l'âme, l'épreuve contre la foi, comme elle l'appelle. Comme Marie dans la Passion de Jésus, Thérèse vit dans les ténèbres du calvaire une véritable kénose de la foi. Une expression très forte que saint Jean-Paul II avait employée dans son encyclique sur Marie, Redemptoris Mater, en insistant que la plus grande souffrance de Marie près de la croix, ça avait été l'épreuve de la foi. Quand elle voyait son fils mourir sur la croix, elle ne doute pas, elle espère toujours, sa foi, mais la foi n'a jamais été autant éprouvée. Bien, Thérèse est proche de Marie, et proche de Marie aussi près de la croix. Donc, en intercédant pour ses frères athées du monde moderne. Là encore, c'est admirable parce que j'ai travaillé sur beaucoup de causes de saints du XIXe siècle. Et c'est un climat très polémique. Vous savez, les athées, les impies, etc., des ennemis à combattre. Pour Thérèse, les athées de son sang, ce sont des frères à sauver. Elle les appelle mes frères. Vous voyez. Il n'y a jamais un mot contre qui que ce soit. Donc elle est assise à la table, non pas pour se souiller, voyez, mais pour que cette table soit purifiée. Lisez ce texte qui est admirable, son intercession. Alors, les pages si belles sur l'amour fraternel, c'est vrai dans la communauté, c'est vrai dans nos familles, voyez, dans toutes nos relations. Et alors, cette finale, on va citer quelques passages. La lumière de l'amour de Jésus qui resplendit dans les ténèbres. Thérèse commente le texte du Cantique des Cantiques. « Attire-moi, nous courons. » Attire-moi, nous courons. Alors un texte, je vais en citer quelques passages, parce que le moment où Thérèse vit dans les plus profondes ténèbres, c'est le moment aussi de la plus grande lumière, la lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont jamais pu éteindre. Hein, vous voyez, même dans le cœur de Jésus, la lumière, alors qu'il meurt sur la croix, la lumière a triomphé de toutes les ténèbres, du péché du monde. Eh bien, Thérèse, en union avec Jésus, vit cela. Alors, encore dans un contexte eucharistique, je cite, « Un matin, pendant mon action de grâce, Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission. Il m'a fait comprendre cette parole des cantiques, « Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. » Ô Jésus, il n'est donc même pas nécessaire de dire, en m'attirant, « Attirez les âmes que j'aime. » Cette simple parole « Attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends. Lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Seigneur, vous le savez, je n'ai point d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. Ces trésors, c'est vous qui me les avez confiés. Et on sait que ces âmes, en fait, c'est toutes les âmes. Au jour de sa profession, dans la petite prière que vous trouvez à la fin de l'histoire d'une âme, Thérèse ose dire à Jésus, « Jésus, que pas une seule âme ne soit damnée aujourd'hui. » Et elle ajoute, « Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire. » Parce qu'à son époque, on pensait qu'il y avait chaque jour, parmi des milliers de personnes qui le montent, hélas, beaucoup vont en enfer. Quelque chose d'inévitable. Thérèse ne s'y résigne pas. Une prière qu'elle va renouveler tous les jours, je peux dire pas comme prêtre, tous les jours, après la consécration du calice, je demande à Jésus que pas une seule âme ne soit damnée aujourd'hui. J'essaie d'être disciple de Thérèse aussi, comme prêtre. Voyez. Donc, pendant son action de grâce, toujours en contexte eucharistique, après, Jésus lui donne, c'est toujours l'écriture, pas de vision, rien d'extraordinaire, la compréhension de la parole de Dieu. La parole donc, que l'épouse, dans le Cantique des Cantiques, adresse à son époux, « Attire-moi, nous courrons, le moi et le nous ». La dimension la plus personnelle de la sainteté qui est inséparable de la dimension communautaire. Le moi et le nous qui sont reliés merveilleusement à partir d'un texte de l'Écriture. Et alors, il va commenter dans les pages suivantes quelques passages simplement, mais vous voyez déjà ici, avec la symbolique de l'eau, hein, son récit se transforme en prière. Vous voyez, ô Jésus, elle parle, ô mon Jésus. Hein. Vous voyez l'image qui est tellement puissante, de même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne tout ce qu'il a rencontré sur son passage. De même, l'âme, ô mon Jésus, qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour, attire tous les trésors qu'elle possède. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette eau? C'est la grâce du baptême. Hein, vous pourriez relire le texte d'Ézéchiel, qu'on lit pendant le carême, je crois que c'est au chapitre 37, où dans cette vision du nouveau temple, le temple idéal, la petite source d'eau qui coule du côté du temple, un petit filet d'eau, puis qui grandit. Et le prophète en a jusqu'aux chevilles, plus loin, jusqu'aux hanches, après ça il ne peut plus traverser un torrent infranchissable. Qu'est devenue la grâce du baptême chez Thérèse à la fin de sa vie? Vous voyez ce torrent qui entraîne tout. Et vous voyez la suite après sa mort, de fait, hein, des millions, on en fait partie, d'êtres humains qui ont été entraînés dans l'océan de l'amour de Jésus. C'est toujours lui qui est Jésus qui est au centre, c'est jamais Thérèse. Hein, vous voyez, attire-moi, nous courons. Et alors elle va reprendre ce commentaire, toujours la fin de l'histoire du nom, elle va reprendre le commentaire de ses paroles, attire-moi, nous courons, avec une autre symbolique, celle du feu. Je cite, qu'est-ce donc de demander d'être attiré, sinon de s'unir d'une manière intime à l'objet qui captive le cœur? Si le feu et le fer avaient la raison et que ce dernier disait à l'autre, attire-moi, ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance et semble ne faire qu'un avec lui? Mère bien-aimée, voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « attirez-moi », plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi, pauvres petits débris de fer inutiles si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur du bien-aimé, à l'odeur des parfums de leur bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Alors ça, spontanément, Thérèse retrouve un des grands symboles de la divinisation chez les pères de l'Église, l'image du fer rendu incandescent par le feu. Les pères de l'Église l'appliquaient d'abord à l'humanité de Jésus, unie à la divinité de façon inouïe dans le mystère de l'incarnation, divinisée d'une façon unique, plénitude de l'Esprit-Saint, mais aussi, c'est vrai pour nous, puisque Jésus nous donne l'Esprit Saint, ce feu de son amour, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un saint, une sainte, c'est un homme ou une femme, hein, vous voyez, que l'amour de Jésus a rendu incandescent pour attirer les autres. C'est toujours attire-moi, nous courons. Vous voyez, être attiré personnellement, je pense que cette prière, chacun d'entre nous pourrait la faire. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de venir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Voyez, et c'est pour attirer les autres à lui. Et là encore, ça a fonctionné merveilleusement. Vous voyez, l'expérience de ceux qui se sont approchés de Thérèse, elle les attire non pas à elle-même, mais à Jésus. C'est Jésus qui attire à travers elle. Donc cette puissance d'attraction qui est extraordinaire. Et le bon pape François insistait encore en citant Thérèse, la vraie évangélisation, c'est là qu'il parle du testament missionnaire de Thérèse, vous voyez, évangéliser non pas par prosélytisme, avec des moyens humains, des avantages matériels, ce n'est pas une bonne manière, par attraction. Il donne l'exemple justement de la bonne manière d'évangéliser, c'est celle de Thérèse, en attirant par le témoignage, voyez, par le témoignage d'amour, en attirant à Jésus. Bien, nous allons terminer, donc on est tout à fait dans les dernières lignes de l'histoire du dame, du récit. Thérèse, vous voyez, elle le vit, mais ensuite elle pense à tous les saints dans l'histoire de l'Église, et elle dit « tous les saints l'ont compris », et plus particulièrement peut-être ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies. Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. Et c'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Et bien vous voyez, chers amis, les saints à venir, c'est nous. Tous appelés à la sainteté. Alors là, c'est la carmélite qui parle. Vous avez entendu deux fois le mot « oraison » qui vient. Le mot clé de sainte Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila écrit toujours, elle est le docteur de l'oraison. Ce n'est pas seulement une pieuse méditation, c'est véritablement, c'est la vie intérieure, c'est la relation personnelle, la relation d'amour avec Jésus, absolument pour tous, vous voyez. Et alors, Thérèse insiste, elle donne une liste de saints qui est admirable. Là encore, quand on lit ça, vous voyez, elle nomme Paul, auteur, un des auteurs du Nouveau Testament. Après Paul, elle nomme Augustin. Pensons à notre pape Léon, qui est un fils de saint Augustin, qui est un des plus grands parmi les pères de l'Église. Elle nomme saint Thomas d'Aquin, qui est un plus grand parmi les docteurs de l'Église, le docteur du Moyen-Âge, le bon usage de la raison éclairée par la foi. Puis bien sûr, elle nomme ces mystiques que sont saint François d'Assise et saint Jean de la Croix. Vous voyez ? Eh bien, vous voyez, c'est ce prisme dans l'histoire de l'Église, cette doctrine des saints, cette science des saints, science divine qui ravit les plus grands génies, elle est toujours fondée sur l'Écriture, saint Paul, vous voyez, et elle se déploie dans l'histoire, déployée par les pères de l'Église, ces grands saints penseurs du Moyen-Âge, et puis tous ces mystiques, François d'Assise, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne, que nous fêtons aujourd'hui, tous les autres, elle, voilà. Et alors, vous voyez, c'est, eh bien, toujours, c'est pour soulever le monde, hein, l'oraison, vous voyez, qui embrase d'un feu d'amour, c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, et tous appelés à la sainteté, appelés à soulever le monde de cette manière-là. Et enfin, les toutes dernières lignes, point final de l'histoire d'une âme. Ma mère chérie, maintenant je voudrais vous dire ce que j'entends par l'odeur des parfums du bien-aimé. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées, mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile. Aussitôt, je respire les parfums de la vie de Jésus, et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète, rempli de confiance, l'humble prière du publicain. Mais surtout, j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante ou plutôt son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, J'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Point final de l'histoire d'une âme, vous voyez, les deux mots, la confiance et l'amour, comme les deux phares de toute la spiritualité de Thérèse, la confiance qui conduit à l'amour. Alors, là encore, ce texte avait beaucoup frappé le saint pape théologien Benoît XVI, dans son exhortation apostolique sur la parole de Dieu, Verbum Domini. Il parlait des saints en rapport avec l'écriture sainte, et évidemment, il citait Thérèse, vous voyez, « Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile, aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus. » Le parfum, c'est un des symboles de l'Esprit-Saint. Rappelez-vous, saint Paul, la bonne odeur du Christ, l'Esprit-Saint qui répand dans le monde, la bonne odeur du Christ. Et le pape François insistait aussi, vous voyez, sur ce point, comment Thérèse, elle habite l'Évangile. Elle habite l'Évangile dans l'amour de Jésus. Elle s'identifie avec les personnages de l'Évangile, évidemment pas avec le pharisien. Vous voyez, mais l'humble prière du publicain, « Prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » L'amoureuse audace de Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée. Vous voyez, cette affirmation si forte et qu'il ne faut pas atténuer, le pape François ainsi, prendre le message de Thérèse dans toute sa force, vous voyez, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui peuvent se commettre, j'irai me jeter dans les bras de Jésus. Soit on dit, oh ben oui, ben elle n'avait pas fait de grands péchés, donc on dit, moi qui suis pécheur, je ne peux pas dire ça. On atténue, on efface, vous voyez, toute la puissance. Et souvent, vous voyez, nous pouvons sentir très profondément pécheurs et même le message de confiance que donne Thérèse. Voyez, pensons aussi au bon larron, il n'est jamais trop tard, même pour devenir un saint. Et elle avait demandé à sa prieure d'ajouter, et vous trouvez en annexe aussi dans ce précieux petit volume, l'histoire de la pécheresse morte d'amour. Elle avait lu dans l'histoire des pères du désert, de ses premiers moines, l'histoire justement d'une femme, une grande pécheresse, une prostituée qui scandalisait tout le monde, qui en quelques heures était devenue une grande sainte. Vous voyez l'intensité de sa conversion, de son amour. Vous ajouterez ça à l'histoire. Alors voilà, je terminais, vous voyez, vraiment que j'espère, vous voyez, que Thérèse, alors surtout, vous voyez, procurez-vous ce trésor. J'ai donné quelques passages, quelques extraits, mais tout est tellement puissant, et vous voyez à quel point la force de ces affirmations. Voilà, je vous le dis encore, toute ma joie d'avoir passé ce moment. Excusez-moi, j'ai été un peu long, je pensais ne pas dépasser une heure, mais je l'ai largement dépassé. Mais alors que ce soit maintenant Thérèse, et puisque ces reliques sont là, vous voyez, qui viennent vous parler personnellement et vraiment vous relancer sur ce beau chemin de la sainteté. C'est ce dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup, frère. Vous nous donnez envie de suivre la petite Thérèse. Merci. On va prier les complis. Et puis, voilà, si vous voulez rester un petit peu après pour vénérer la chasse, on laissera la chapelle un petit peu ouverte.